Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette seconde journée du colloque « L'anti-esclavagisme, un idéal cosmopolite ». Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons nous pencher sur la question des circulations transnationales du mouvement abolitionniste. Et nous allons tout d'abord écouter deux historiennes. Je vais les présenter l'une après l'autre. Alors tout d'abord, nous allons écouter Miranda Spiller, qui est professeure d'histoire et de politique à l'Université américaine de Paris et spécialiste d'histoire du droit, de l'esclavage et des sociétés post-esclavagistes de l'Empire français. Sa première monographie a été publiée en anglais sous le titre de Empire Underworld, Captivity in French Guinea, aux éditions Harvard University Press en 2012. Et a été traduite. Son livre récent, qui a été publié l'année dernière, Slaves in Paris, sortira à la rentrée 2026 en traduction française aux éditions La Découverte, sur le titre Esclaves à Paris, vie cachée et histoire fugitive. Donc le titre de sa conférence aujourd'hui est au croisement de la mobilité cosmopolite et de l'histoire familiale, un réseau anti-esclavagiste sous la Restauration. Nous vous écoutons.
Ok, j'ajoute un point d'interrogation à la fin du titre. Voilà. Pour, ok. Les merveilleuses présentations de mes collègues hier m'ont rappelé les distinctions saisissantes entre les paysages archivistiques et conceptuels dans lesquels les chercheurs peuvent évoluer, bien qu'ils semblent travailler sur des sujets similaires. Il existe souvent un fossé énorme entre le domaine de ceux qui étudient l'esclavage et celui de ceux qui étudient ceux qui luttent contre l'esclavage. Et pourtant, il est éthiquement et épistémologiquement essentiel, voire urgent, d'entretenir un échange continu entre les historiens de l'esclavage et les historiens de l'abolitionnisme. Cela est d'autant plus vrai en France qui célèbre actuellement le 25e anniversaire de la loi Taubira, laquelle a contribué à instaurer la journée de 10 mai, commémorant à la fois l'esclavage et l'abolition. Dans cet esprit, je souhaite relier ma propre étude de cas, dont je parlerai plus en détail prochainement, aux réflexions méthodologiques qui ont sous-tendu l'une des interventions d'hier à propos de la Sierra Leone. Benedetta Rossi a évoqué l'anti-esclavagisme cosmopolite comme un bricolage de pratiques issues d'une variété de cultures différentes, occidentales et africaines, chrétiennes et musulmanes, que les missionnaires noirs ont fusionnées en raison de leur rôle d'intermédiaires sociaux et religieux. Dans ce qui suit, je m'intéresse au rôle des rencontres fortuites ainsi qu'à la mobilité culturelle et physique dans la construction du discours anti-esclavagiste transatlantique. Cette présentation vise moins à cerner l'essence même de l'anti-esclavagisme qu'à s'interroger sur les hasards de la construction du discours anti-esclavagiste et les hasards qui poussent les individus à devenir opposants à l'esclavage. Il aborde ces questions à travers le prisme d'une histoire familiale hors du commun. Je me suis tournée vers l'histoire familiale à titre expérimental dans le but plus large d'élaborer un récit unifié de l'ère de l'abolition en France, que j'imagine commencer vers 1780 et terminer vers 1850, malgré les fractures qui traversent cette période, tant temporelle que spatiale. Comme la plupart d'entre vous le savent, la France a aboli l'esclavage à deux reprises, en 1794 et en 1848. Il existe deux historiographies distinctes sur la lutte contre l'esclavage qui généralement ne dialoguent pas entre elles. Et il existe également des clivages géographiques. La Martinique, la Réunion et le Sénégal n'ont jamais aboli l'esclavage en 1794, contrairement à la Guyane française, à Saint-Domingue, Haïti et la Guadeloupe. Les populations de la Guyane et de la Guadeloupe ont connu un retour à l'esclavage en 1802, ce qui n'est pas produit ailleurs. Dans l'avenir, j'espère construire une nouvelle histoire de l'art de l'abolition, structurée autour de plusieurs récits familiaux multiraciaux, qui relient le monde colonial avec la France et avec d'autres pays dans le monde atlantique. Et aujourd'hui, je me concentrerai sur un personnage qui s'appelle Jahan Diraiment, né en esclavage en Martinique, qui s'est enfui de Saint-Pierre en Nouvelle-Angleterre en 1815, avant de s'installer à New York, et je perds sa trace physique en 1821. Une fois une sécurité aux États-Unis, Jahan s'est intégré à un réseau transatlantique anti-esclavagiste, informel et hétéroclite, à la création duquel il a contribué. Le catalyseur de la création de ce réseau fut un court texte autobiographie manuscrit, rédigé en 1802 et adressé depuis New York à Monsieur le directeur général des colonies. Ce même texte fut ensuite imprimé à Paris, 2 ans plus tard, par une maison d'édition éphémère ayant des liens avec des militants de couleur de la Martinique. J'ai découvert pour la première fois la version manuscrite de ce document alors que j'écrivais un article sur les sévices, les mauvais traitements infligés aux esclaves à l'époque de la Restauration. Mais ce n'est pas que la publication ultérieure de cette lettre qui rend possible la lecture que je propose aujourd'hui, en me permettant de tirer des conclusions sur le réseau plus large qui a rendu possible la publication de ce texte. Jahan Diraiment s'est enfui de la ville de Saint-Pierre à la mi-septembre 1815. Il faisait initialement partie d'un important groupe d'évadés. Il sera plus tard décrit comme l'un des chefs de file. Les 9 autres personnes se joignirent à Jean-Philippe, esclave du Sieur Acier, et à Raymond, esclave de Sainte-Croix, c'est ainsi qu'il est décrit, qui se noyèrent tous deux au moment de leur arrestation. Donc, ils sont présumés morts. Après avoir disparu, Jahan Diraiment et son camarade ne furent pas poursuivis par personne et ne furent accusés de rien. La plupart des autres moururent sur l'échafaud. Le matin du 4 décembre 1815, un cortège de jeunes condamnés, vêtus de blanc et portant des nœuds coulants, se dirigea vers la potence de Saint-Pierre, derrière des soldats français, sous les armes, accompagnés des volontaires à cheval. Une fois privés de vie, les corps des condamnés, qui étaient des garçons âgés de 14, 15 et 16 ans, furent jetés dans un tas d'ordures à grande roche, habituellement réservé aux carcasses d'animaux. Jahan affirme plus tard que les fugitifs avaient été poursuivis presque dès l'instant où ils avaient quitté le port par une embarcation armée qui était probablement un bateau de douane. Un navire de patrouille saisit les fugitifs et leurs canoës à 1,5 lieue de la côte, c'est-à-dire à peu près 6 kilomètres. Et en rassemblant tous ces détails, on se retrouve avec 9 garçons dans un canoë volé, pagayant dans l'obscurité de la nuit pour échapper à la police, qui furent réparés par un navire de surveillance effectuant sa ronde nocturne. Il ne faisait peut-être pas assez sombre. Les fugitifs ont été trahis par le cycle lunaire. Ils se sont enfuis la première nuit de pleine lune. En tant qu'esclave domestique, Jahan avait des meilleures chances de survie que les ouvriers agricoles de la même plantation. Les esclaves de la plantation sucrière de Jahan de Haumont mouraient souvent à un taux de 10% par an, parfois davantage, ce qui invite à une comparaison avec les taux de mortalité dans les cales fétides pendant la traversée du milieu. Le rejet familial a pesé sur la vie quotidienne de Jahan avec une véhémence fratricide jusqu'à ce qu'il s'enfuit de l'île. Il n'est pas parti en réaction à de simples coups donnés à la main ou à fouet. Au contraire, son jeune maître, Adolphe Jahan de Haumont, âgé de 20 ans, éduqué à Paris, tout juste arrivé de la capitale, avait frappé Jahan à coups de fusil de chasse à l'estomac pendant une durée indéterminée, lui causant des lésions organiques irréversibles. Et Jahan n'était pas simplement l'esclave d'Adolphe. Les deux hommes, qui semblaient avoir à peu près le même âge, étaient les fils du même père. Ce que tout le monde savait dans la petite paroisse de Marigot, qui comptait 6 plantations, 930 esclaves, 1000 personnes de couleur libre et 60 blancs. Ce père, qui n'avait jamais affranchi Jahan, était également décédé plusieurs mois avant la naissance d'Adolphe. La punition quasi mortelle infligée à Jahan par son frère et maître eut lieu au cours de ce qui, vu de loin, ressemble à une partie de chasse fraternelle asymétrique. Adolphe attribua plus tard cet incident à son emportement occasionné par l'insolence de cet esclave. Ils avaient réparé du gibier, imaginé un canard, et Jahan avait tiré le premier. À l'époque de la fuite de Jahan en 1815, le mouvement anti-esclavagiste français n'existait pas en tant que tel. En effet, au cours des 2 décennies suivantes, il ne se dota d'aucune structure organisationnelle au-delà du comité contre la traite des esclaves de la Société de morale chrétienne, composée de 11 membres. Et pourtant, quelque chose bougeait, alors que des fragments du passé de Jahan commençaient à refaire surface en France. 6 ans après sa fuite, une poignée de personnes semblaient jouer le rôle d'enquêteurs, de caisses de résonance, de collecteurs d'histoires et d'amplificateurs des nouvelles, qui remontaient de la base grâce aux réseaux familiaux et aux rencontres dans les espaces pour de sociabilité masculine. Ces espaces comprenaient les librairies, les tavernes, les salles de lecture, ainsi que les loges maçonniques et autres sociétés secrètes. Et je suis en train de creuser l'histoire de ces sociétés secrètes actuellement. Il est impossible, dans le cadre de cette enquête préliminaire, de brosser un tableau complet de ce monde. D'un point de vue archivistique, je ne peux qu'en offrir des aperçus à travers le prisme de l'histoire de Jahan. L'évasion ratée de 1815, menée par les jeunes Martiniquais dans Jahan et ses terribles conséquences, n'ont pas été rapportés dans la presse métropolitaine, mais étaient connus des personnes qui faisaient la navette entre les deux mondes, qui veut dire les hommes de couleur, principalement. Cette histoire n'est entrée dans les annales imprimées de la France qu'au début des années 20. Elle y est apparue dans un premier temps comme une anecdote illustrative, une horreur emblématique dans les écrits anti-esclavagistes d'une poignée de personnes disparates. En juin 1821, la tentative d'évasion des jeunes Martiniquais et le massacre qui s'en suivit furent évoqués à l'Assemblée nationale lors d'un échange entre les députés et le ministre de la Marine. L'orateur était Gabriel Lenné de Villevêque, aujourd'hui tombé plutôt dans l'oubli, défenseur de la liberté d'expression et bâtisseur d'empire en chambre, remarqué par ses collègues par sa prolixité émotionnelle. On sait peu de choses de sa vingtaine, rien de ce qu'il fit pendant la Révolution, si ce n'est qu'il se maria et peut-être se cacha. Il s'impose vers 1800 comme conseiller régional ultra-royaliste dans les premiers écrits publiés sous le pseudonyme de Fugitif, comprennent un plaidoyer pour, je cite, « la délivrance de l'orphelin du Temple » et un plaidoyer pour la reconquête de la Louisiane. Peu après son élection à la Chambre des députés, Lenné de Villevêque se fit la porte-parole publique des colonies passées et futures. Il exprima des opinions impérialistes, sinon conformistes, qu'elles ont devenu imprononçables. Dans un discours prononcé le 27 juin 1821, Lenné de Villevêque évoqua l'évasion martiniquaise et le massacre collectif comme une scène offrant un contraste choquant avec sa propre vision de l'avenir de l'Empire libéral français. Lenné de Villevêque fut peut-être le seul Français de son époque à considérer l'égalité raciale comme la clé d'une expansion coloniale triomphale. En comparant le procès-verbal parlementaire et la version manuscrite de ce discours en 1821, je veux dire de la main de Lenné, avec l'arrêt martiniquais de 1815, il apparaît clairement que Lenné de Villevêque a pris connaissance de ces événements à la fois à partir d'un procès-verbal officiel et d'une source non publiée. Il a ajouté des détails qui n'avaient était imprimé nulle part, comme des tenues blanches, des nœuds coulants, le nom du prêtre qui sanglotait en célébrant les derniers sacrements. Il semble probable que l'aîné de Villevec ait obtenu ce récit de la part d'une personne en Martinique ou d'une personne qui avait des contacts. L'incident martiniquais fut ensuite évoqué dans la brochure de l'abbé Grégoire, des peines infamantes à infliger aux négriers de 1822, qui reprenait en annexe le texte de l'arrêté local de la Martinique qui condamnait les fugitifs pour, je cite, « avoir voulu ravir à leur maître le prix de leur valeur ». Les remarques de Grégoire et l'annexe de cette brochure sont des artefacts intertextuels façonnés au sein et en un sens par un espace discursif militant trans-océanique reliant la Martinique à la France. Pour réaliser cette brochure, il fallait disposer d'un numéro de la Gazette de la Martinique datant de 6 ans, la seule transcription accessible au public ou d'une copie parfaite. Grégoire a écrit sur cet incident parce que quelqu'un, l'aîné ou un contact martiniquais, se trouvait à Paris vers 1821 et faisait le tour des médias avec des éléments attestant cette vieille histoire. Peu après, Jahan devint un auteur publié. En 1823 ou 1824, une lettre manuscrite signée Jahan Diraiment, adressée au directeur des colonies, fut imprimée à Paris. La lettre de Jahan, bref mais remarquable, présente des similitudes structurelles avec les récits d'esclaves anglophones. Mais selon Sophie White, l'historienne, je cite, « aucun récit de ce type n'a été rédigé en France ni dans ses colonies ». La lettre de Jahan dit Raymond pourrait être, pour l'instant, je pense, le seul exemple connu à ce jour d'une publication autobiographique par un esclave, ancien, actuel ou présumé, en langue française, qui traite l'expérience de l'esclavage. Et ici, je dis ça parce qu'il y a l'autobiographie de Toussaint, mais ça traite autre chose. C'est peut-être une coïncidence ou peut-être pas, qu'au directeur général des colonies était rédigé probablement par un réfugié francophone alphabétisé aux États-Unis qui parlait l'anglais, pouvait lire des textes autobiographiques d'auteurs anglophones et vivait dans un pays où sévissaient des militants anti-esclavagistes. Comment expliquer cette rareté d'autobiographie publiée ou non, rédigée par des personnes asservies ou anciennement asservies en langue française? La réponse réside dans l'absence d'un mouvement anti-esclavagiste suffisamment solide pour soutenir la collecte, l'édition et la publication. Ce qui soulève la question de savoir qui a décidé de publier la lettre de Jahan, comment elle a été imprimée et pourquoi. Avant de tenter de percer le mystère de la publication de la lettre, il convient de s'attarder sur son contenu remarquable, quelle que soit sa forme. La lettre formulait des revendications audacieuses qui défiaient toutes les dispositions relatives au statut et à la hiérarchie du code noir. Jahan exigeait de retourner librement en Martinique, où il était considéré comme un hors-la-loi, et demandait la liberté de sa mère et ses enfants. Il demandait que son frère soit interdit de gérer des esclaves. Il demandait une indemnité pour ses peines. C'est cette question du juste indemnité qui me semble le plus déroutant. Et il existe plusieurs façons dans cette expression, les concepts qui y sont liés, circuler dans le discours juridique et politique français au début du XIXe siècle, comme on le sait parce qu'on a parlé de ça hier. Le droit pénal et civil français permettait aux personnes faussement accusées, acquittées de crimes, de demander des dommages-intérêts, projet non sollicité du code pénal rédigé par Sipi Bexon, juriste utopiste, étendant cette juste indemnité à toutes les personnes innocentes persécutées à tort par l'État. Le terme « indemnité » apparaît dans la déclaration originale des droits de l'homme. Et ensuite, on sait que c'est associé aux demandes des planteurs de Saint-Domingue. Mais il y avait aussi les réclamations de la noblesse de cette époque. Et je vais revenir rapidement sur ça dans quelques minutes. Et je pense donc pour comprendre ce texte, il faut prendre le contexte noble plus au sérieux. Pendant la Restauration, les émigrés brandissaient leur charte, exigeant d'être indemnisés pour les biens saisis par l'État révolutionnaire, mais aussi le camp de l'intendant attendait du gouvernement qu'il établisse des gradations sociales, l'inviolabilité éternelle des possessions légales et une juste indemnité pour les malheurs immérités. Et ça continue dans les brochures de cette époque, aux familles des soldats arrachés à l'armée pour se faire décapiter sur l'échafaud révolutionnaire, aux soldats inscrits à tort sur la liste des émigrés, etc. Je vais montrer rapidement pourquoi ce contexte noble est important. Le décret de 1815 du Conseil supérieur de la Martinique, condamnant à mort 9 fugitifs désignés Jahan comme Raymond esclave de Sainte-Croix. Il existait d'autres façons de décrire cette relation. Jahan était le beau-frère officieux de Carloman Félix, le marquis de Renoir de Sainte-Croix. En 1811, le marquis, ruiné par la Révolution, épousa Polly Jahan de Aumont, qui était la demi-sœur de Jahan. Il s'agissait d'une union intéressée dans un pays confronté à la pénurie d'héritières, en raison des événements révolutionnaires sur les territoires coloniaux et nationaux. Et il faut savoir que toutes les héritières étaient... il fallait avoir une héritière de la Martinique à cette époque. Les membres de la famille Jahan de Aumont accusèrent par la suite le marquis de Sainte-Croix de dépenses ruineuses. Peut-être il était dépensier, mais à l'exception peut-être de l'argent, le marquis avait un penchant pour le comptage. Féodal, têtu, patriarcal, il se donnait aux statistiques. Un domaine novateur qui commençait à faire fureur. Et en tant que mari, il contrôle les biens de son épouse. Donc, à partir de 1822 et à intervalles réguliers pendant les 10 ans suivantes, il fit pression sur le gouvernement contre son beau-frère. Il se sépara également de la marquise et se retira de la gestion des esclaves. Et il va terminer comme abolitionniste. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce torrent de plaintes? J'ai une minute ou deux pour continuer. Très bien. Qu'est-ce qui a déclenché ce torrent de plaintes qui s'est prolongé jusque dans les années 1830 et sous tous les réclamant une enquête officielle de la famine et des mauvais traitements? Le déclencheur, outre sa haine manifeste pour sa femme et son beau-frère, fut la lettre encore inédite de Jahan et l'enquête qui s'en suivit, menée par la marine chargée de l'administration coloniale sur les allégations de cruauté au domaine d'Aumont. Sainte-Croix était l'ultra-royaliste par excellence, c'est-à-dire garde du roi, régiment de la reine, émigration immédiate, armée de Condé, dont les références de réactionnaires irréprochables lui permettaient d'être vue et entendue par l'État de la Restauration. Il avait des liens avec Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine, qui avait connu son père pendant la guerre, c'est une citation. Mais c'est la lettre de Jahan, avant même sa publication, qui a ouvert à Sainte-Croix un accès direct aux personnes des plus hautes sphères de l'administration coloniale. Les lettres de plainte qu'il adressa au ministère à cette époque et par la suite furent également motivés par les récits d'esclaves qui transmettaient des détails à quelqu'un qu'ils considéraient comme un auditeur attentif. En fin de compte, la relation entre Jahan et Sainte-Croix est probablement encore plus complexe. La lettre qui déclencha les plaintes de Sainte-Croix est peut-être celle qui a lui-même contribué à rédiger. La notion de juste indemnité qu'il a réclamée, parce que ses archives à Besançon contiennent des demandes de ce type, portait des traces du noble émigré. Jahan avait-il l'intention de faire publier son texte? Comme nous l'avons vu, le directeur des colonies en était le véritable destinataire. Ce n'était pas comme une lettre ouverte. Mais il n'était pas le seul récipient. Sainte-Croix et l'aîné de Villebecque ont tous de reçu les exemplaires. Et il est même possible que Grégoire en ait également reçu un exemplaire, il me semble, et qu'il ait choisi d'intégrer une partie du récit de Jahan dans sa brochure de 1822. Impossible à savoir, mais c'est une hypothèse. Les responsables de la marine n'auraient jamais ouvert d'enquête sur les allégations de Jahan en septembre 1822, sans la menace d'une divulgation. Ils l'ont fait par crainte que la lettre de Jahan ne soit divulguée à la presse ou à l'Assemblée législative. Quelqu'un, dont le nom n'apparaît dans le dossier, a informé la marine de sa diffusion à plus grande échelle. Donc, avant de conclure cette première incursion dans les conflits familiaux de Jahan, je vais brièvement m'attarder sur les circonstances de sa publication et examiner la portée plus large de la décision de la faire paraître. Je propose pour cette dernière partie de lire la lettre au directeur général des colonies à Paris comme le texte complémentaire ou le pendant d'un document incendiaire bien connu et publié à Paris en 1823, année probable de la publication de cette lettre. La lettre de Jahan provenait de l'imprimerie de Jacques McCarthy. Je vais aller en arrière pour montrer ça. Attendez. Et, ok, on peut le voir en bas. Cette lettre fut produite dans des circonstances inhabituelles par un imprimeur improbable qui se retirait bientôt du métier de l'édition, tout en continuant à écrire, à vendre et à faire imprimer des livres par d'autres Irlandais. Parce que c'est un Irlandais naturalisé, Jacques McCarthy, né à Cork, qui s'est enrôlé en fugue dans l'armée napoléonienne à l'âge de 18 ans. Et y resta jusqu'à Waterloo, prenant sa retraite avec le grade de chef de bataillon. Il acquit sa licence d'imprimeur en février 1823 auprès d'une voisine du quai des Augustins, récemment veuve, à qui le gouvernement avait retiré le brevet d'imprimeur de son mari, pour des raisons qui sont comiques, mais j'évite pour les... Oui, voilà. Parmi les ouvrages que McCarthy avait commandés à l'atelier de Poulet, cet imprimeur, avant sa mort, il y avait des hommages illégaux à Napoléon, des encyclopédies sur la thème de géographie par McCarthy lui-même, un livre interdit, Napoléon en exil par exemple. Et il y avait aussi, j'ai derrière moi, de la situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises qui déclenche ce qu'on appelle l'affaire Bicêtre en France en 1824, qui va avoir des effets explosifs en Martinique, où elle fut brûlée par le bourreau. En 1823, craignant de nouvelles conspirations de mulâtres, les forces de l'ordre fouillèrent des centaines de domiciles appartenant à des hommes de couleur à la recherche de ça. Elles saisirent des papiers, des pétitions, des exemplaires de cet imprimé de McCarthy. Et puis, il y avait des centaines de gens qui étaient déportés et d'autres qui étaient envoyés en France pour être dans le bagne de Brest. Pour conclure, l'histoire de Jahan nous invite à repenser le récit du mouvement anti-esclavagiste français, même s'il n'y a jamais, il n'a jamais lui-même demander une abolition générale de l'esclavage. Cette histoire nous invite à revoir cette période à travers des mots qui se déplacent, se transforment, qui rassemblent des gens et qui continuent à changer. Considérés sous cet angle spatial et discursif, ils nous révèlent des liens entre les peuples qui, sans cela, pourraient rester invisibles. Cette histoire confère une unité au monde atlantique, met en lumière l'importance des récits familiaux et des réseaux familiaux ramifiés par l'étude de la mobilité culturelle, en particulier en ce qui concerne la circulation et l'évolution des idées parmi et à travers les personnes asservies. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.